France Inter, le 18-20.
Nous sommes le 23 septembre 2016. Dans 7 mois, jour pour jour, ce sera le premier tour de la présidentielle. Si l'on en croit les sondages, Marine Le Pen ne devrait avoir aucun mal à se qualifier pour le second tour. Alors ce soir, on va s'interroger sur ce qu'est devenu le Front National, version 2016. Le parti a-t-il vraiment changé sous la présidence de Marine Le Pen ou s'agit-il seulement, si l'on peut dire, d'un ravalement de façade? On ouvre le débat ce soir dans le téléphone sonne. Avec nous dans ce studio, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion publique à l'IFOP. Jérôme Fourquet qui publie « Accueil ou submersion » aux éditions de l'Aube, regard européen sur la crise des migrants. En duplex de France Bleu Roussillon à Perpignan, Nicolas Lebourg qui vient de publier, lui, « Lettre ouverte aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout ». C'est aux éditions Les Échappés. Avec nous également Aurélien Colli du service politique de France Inter qui suit le FN. Et toujours à nos côtés, le grand témoin du vendredi, Jean-Paul Delevoye, qui est resté avec nous et nous fera part de ses réflexions.
Claire Servageant. Le téléphone sonne.
Mais d'abord, nous allons au standard de France Inter où nous attend Francis. Bonsoir Francis, bienvenue.
Oui, bonsoir, merci, bonsoir à tous et à toutes. Ma question est simple, je pourrais en fait la poser à n'importe quel parti politique ou homme politique qui se passerait sur votre antenne. À l'heure donc où tous les politiques proposent des programmes où on a l'impression qu'ils vont nous sauver et nous sortir de la panade en règle générale, est-ce que le Front National a les moyens de répondre en toute sincérité à tout ce qu'il propose, à satisfaire tous les Français? C'est une question globale, mais tout le monde attend ça en définitive. Quand on vote, c'est ce qu'on veut. Voilà.
Alors Francis, vous qui nous appelez de Sainte, si je peux me permettre, Cette question, vous nous la posez, c'est intéressant, et nos invités vont essayer d'y répondre, mais Est-ce que vous vous la posez vous-même avant tout?
Que de plus en plus, je pense que nous avons... il y a trop d'hommes politiques en France. De toute façon, c'est le pays au monde, il y en a le plus par nombre d'habitants et par kilomètre carré. Donc déjà d'entrée, on en a trop qui proposent de tout de rien, on ne sait plus pour qui voter, c'est comme les paquets de lessive en fait.
Merci Francis donc d'avoir appelé France Inter. Cette question, elle pose celle du programme du Front National, Jérôme Fourquet. Est-ce que ce programme reste à préciser aujourd'hui à 7 mois du premier tour?
Alors oui, mais comme d'autres partis politiques, hein, la force du Front National, hein, c'est de rester à un certain niveau de généralité, hein, et de proposer une vision du monde, une grille de lecture qui permette à beaucoup de Français de comprendre ce qui leur arrive, de désigner des causes, des mécanismes, de pointer aussi les responsables de tout cela et de proposer une solution de rupture. Alors ça a été dit maintes fois, mais il faut le répéter, avec l'avantage majeur par rapport aux autres, c'est qu'ils n'ont jamais exercé le pouvoir et qu'ils sont donc pas comptables des désastres ou des problèmes qui se posent aujourd'hui. Maintenant, pour aller un petit peu dans le sens de la question de votre auditeur, beaucoup de Français aujourd'hui qui votent pour le Front National sont passés du vote de protestation, comme on disait il y a quelques années. Alors on proteste toujours parce qu'on est mécontent vis-à-vis de l'offre politique traditionnelle, mais il y a de plus en plus aussi un discours, une démarche d'adhésion au Front National, avec l'idée selon laquelle on les a pas essayés, ça peut pas être pire que les autres. Et puis aussi, encore une fois, une vision du monde qui peut amener un certain élément d'explication aux difficultés que un grand nombre de Français rencontrent. Hein, donc c'est ça qu'on pourrait dire.
Alors on va se tourner maintenant vers Nicolas Lebourg. En fait, se tourner, c'est un bien grand mot. Il est à Perpignan, il est en direct avec nous des locaux de France Bleu Roussillon. Bonsoir Nicolas Lebourg.
Bonsoir.
C'est intéressante la question de Francis. Et d'ailleurs, à travers votre livre « Lettre aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout », vous répondez indirectement aux personnes comme Francis qui se posent ce genre de questions. Est-ce que le FN a réponse à tous nos problèmes?
Alors ça, je ne sais pas. Par contre, monsieur mettait le doigt sur quelque chose d'important. Une des forces du Front National, c'est qu'il dit qu'il y a un coût de l'immigration qui serait exorbitant. D'après le Front National, ça serait 70 milliards d'euros que ça coûterait à la France. D'après un rapport du ministère du Travail, au contraire, ça serait bénéficiaire. Et le Front National dit, si on stoppe cette immigration, vous voyez bien, on peut sauver l'État social sans nouveaux prélèvements. On peut piocher dans ces 70 milliards pour faire des grands travaux, pour faire une politique sociale. Le FN, c'est le seul parti qui arrive à dire à tout l'électorat, vous aurez l'État social sans prélèvement. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort et qui lui permet de parler à toutes les catégories sociales.
Aurélien Colli.
Juste un mot sur la question de l'auditeur, sur la forme aussi. Est-ce que le Front National est en mesure de mettre en œuvre ce qu'il propose? Là, c'est la question clairement non. Il y a une professionnalisation évidente depuis quelques années avec Florian Philippot, une professionnalisation de ses cadres. Mais aujourd'hui, en termes d'effectifs, même si c'est vrai que le Front National a créé des collectifs pour recruter, pour faire remonter des gens, même si il s'appuie sur un certain nombre de personnes qui ne veulent pas aujourd'hui intervenir dans la sphère publique, sur le fond, il ne dispose pas aujourd'hui du personnel politique qui lui permettrait de mettre en œuvre le programme qu'il vend.
En tout cas, Jean-Paul Delevoye, le Front National est clairement en train de se positionner. Il sait qu'il y a une demande, il y a une offre, et bien il occupe la place.
La question, si on la prend de façon plus générale, et c'est intéressant d'entendre les spécialistes, c'est qu'en fin de compte, une des grandes déceptions des électeurs traditionnels, c'est qu'il y a toujours un écart entre le programme qui a été affiché pour séduire des électeurs au moment d'une campagne électorale et la façon dont il est exécuté, voire modifié après. Et donc, il y a toujours une phase d'un peu de désillusion. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de partis ont choisi délibérément de prendre un programme attractif, récupérant et brassant toutes les idées. Si vous regardez ce programme de ce parti, vous avez des choses qui séduisent l'extrême droite, des choses qui séduisent l'extrême gauche, qui séduisent le centre, et donc c'est absolument ingérable. Sauf que ça n'a qu'un but, séduire des électeurs. Et donc, derrière tout cela, on voit bien qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne veulent plus être désillusionnés. Mais en même temps, il y a un paradoxe, c'est quand on pose la question aux citoyens, est-ce que vous êtes prêt à voter pour un homme politique qui vous dit la vérité et qui vous met devant le chemin, la réponse est non aussi. Et on s'aperçoit que la France a toujours su se tourner le dos à Michel Rocard, à Chaban-Delmas, à Raymond Barre, des hommes et des femmes qui prenaient rigueur, mais avec un certain nombre de lisibilité sur des programmes.
On n'a pas envie d'entendre celui qui nous dit on va vous mettre des coups de bâton.
Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment tout à fait fascinant d'une démocratie nouvelle qui va se mettre en place, c'est qu'après l'arrivée en 1974 d'un produit de consommation qui était le politique et on vendait des campagnes électorales comme des savonnettes, on arrive aujourd'hui à la nécessité de responsabiliser les citoyens sur leurs choix et de leur permettre de se mobiliser. Et c'est la raison pour laquelle les universitaires qui démontent l'inanité des programmes, l'incapacité que l'on a, ou éventuellement vous-même qui éclairez sur les impasses d'un certain nombre de stratégies politiciennes, sont extrêmement importants pour responsabiliser les électeurs.
On repart au standard. Ahmed nous appelle de Gironde. Bonsoir à vous. Merci d'appeler France Inter.
Bonsoir. Voilà, je voulais soulever une sorte de paradoxe assez effrayant. On a les dirigeants du Front National qui semblent effectivement policer leur discours depuis un certain nombre d'années. Et puis, par ailleurs, on a sa base électorale au sens large qui se radicalise un petit peu. Il y a les idées du FN diffusent un peu dans la société et on n'a qu'à regarder un petit peu ce qu'on appelle la fachosphère. Et vous avez reçu quelqu'un cette semaine qui a écrit un livre. Et là, c'est assez effrayant. Voilà. Donc, on a l'impression qu'ils ont vraiment gagné la bataille des idées, et on peut s'interroger sur le caractère plus ou moins sincère du discours policé par les dirigeants. Donc, c'est assez inquiétant. Voilà.
Merci, Ahmed. Moi, je pose la question à Jérôme Fourquet. Banalisation du discours, on édulcoré du côté du Front National. On fait attention à ce qu'on dit. L'autre jour, Marine Le Pen a dit l'islam est compatible avec la République, par exemple.
Tout à fait. Ça vous a pas échappé. C'était fait pour. C'est pas le premier moment de ce ripollinage du discours. On l'a en gros depuis l'accession à la tête du parti de Marine Le Pen, hein, qui rompt symboliquement avec son père, qui rompt avec la question de l'antisémitisme et qui adopte, on l'a vu de manière manifeste à l'université d'été, donc même cette université d'été s'appelle maintenant les estivales, hein, on essaie de policer tout cela. À ces estivales, on a en gros le logiciel souveraineté, hein, qui remplace celui qui était axé sur l'identité. Ça, c'est sur la façade, hein, parce que comme il a été relevé, à un moment dans le discours, Marine Le Pen dit voilà, il y a de multiples peuples qui n'ont pas vocation à vivre sur notre territoire. Donc on revient toujours aux fondamentaux, et si c'est pas elle, ce sont ses lieutenants. Steve Briouat, en parallèle, fait une pétition sur les villes zéro migrant, et Nicolas Bay dit qu'il est favorable au regroupement familial dans le pays d'origine. Hein, donc les fondamentaux sont préservés, et il y a une stratégie un petit peu cosmétique Pourquoi cette stratégie cosmétique? Parce que le Front National est arrivé à la conclusion, le lendemain des régionales, qu'il y avait encore une majorité absolue de Français qui ne voulaient pas les voir arriver au pouvoir. Et donc, il faut absolument faire baisser ce niveau de vigilance ou d'hostilité à l'encontre du parti. Et donc, d'où cette stratégie un petit peu de gommage des aspérités. Le Front National peut de surcroît se permettre cela parce qu'il est servi par une actualité exceptionnelle, hors norme. Les attentats, la crise migratoire à Calais, le problème lié à la présence de l'islam en France. Il y a quelques jours, un rapport faisait grand bruit sur la progression des signes religieux dans les entreprises. Et donc, il y a un bruit de fond permanent qui alimente. Et comme disait votre auditeur, une partie de l'opinion publique se radicalise de plus en plus sur ces sujets-là. Et donc, le Front National dit, voilà, le mouvement global, la dérive des continents nous est favorable. Nous, de notre côté, il faut qu'on gère ça et qu'on ne fasse plus peur. On soit moins clivant, comme on dit dans le langage marketing.
Voilà, Nicolas Lebourg à Perpignan, oui. Sur ce que nous disait Hermès tout à l'heure, ce double langage, d'une certaine façon, on gomme certaines aspérités du discours et en même temps, la parole raciste se libère. Vous partagez ce point de vue?
Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que si on faisait un bond de 20 ans en arrière, même un peu plus, on entendrait Monsieur Bruno Maigret, à l'époque numéro 2 du Front National, dire « Le Front National a gagné la bataille des idées, nous avons gagné la bataille du vocabulaire ». Et au début des années 90, on dit ça aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ce qui s'est passé, c'est certain, c'est que les choses... Il y a eu aujourd'hui une demande d'autorité qui est hégémonique. Si on prenait toutes les enquêtes d'opinion, effectivement, Jérôme Fourquet les évoquait, tout le montre. Il sait 70%, c'était mieux avant, c'est 88%, donc il faudrait un chef avec une vraie autorité, etc., etc. Quand on regarde cette demande autoritaire, elle est très claire. En 2014, là où le Front National ne peut pas présenter de liste parce qu'il n'a pas assez de militants, on a des groupuscules d'extrême droite qui présentent des listes et qui font des scores tout à fait honorables, tout à fait comparables à ceux du FN. Sans FN, d'autres extrêmes droites, là même, peuvent prospérer. Donc tout a changé. Monsieur évoquait la fachosphère. Alors c'est vrai que là aussi, il y a eu un changement dans les canaux d'information. Et vous savez, si je vais me connecter sur un site où ce que je vois, l'information que je vois, correspond à mes préacquis, quelles que soient mes opinions politiques, que je sois de droite, de gauche, d'extrême droite à la base, bien évidemment, ça me permet de justifier ces opinions. La transformation de l'offre d'information, la transformation des offres politiques très peu lisibles, le Front National a un discours clair, il nous dit tout ce qu'est la globalisation, c'est l'orientalisation de l'Europe. C'est l'orientalisation culturelle, économique, etc. Et face à ça, il faut revenir à la souveraineté. Peu de partis politiques arrivent à avoir un discours très très clair sur ce qu'est la France dans la globalisation. Le FN, oui. Donc une représentation du monde qui est claire pour les lecteurs, des moyens de canalisation, des moyens de communication qui effectivement permettent de se dire qu'on n'est pas seul sur cette opinion, et cette bataille des idées néanmoins qui dure depuis des décennies, et dont le FN nous dit depuis des décennies qu'il l'a gagnée, c'est plus aujourd'hui, je crois, vrai, en tous les cas, que dans les années 90, effectivement, il y a une telle demande d'autorité aujourd'hui dans l'opinion, entre autres à cause des questions migratoires et terroristes, qu'effectivement le FN arrive au score qu'on connaît.
Voilà, il y a Renaud par mail qui rejoint ce que vous dites, Nicolas Lebourg. Je crois que la question de ce soir devrait être plutôt, qu'est-ce qui a changé en France pour que le FN soit aux portes du pouvoir, Jean-Paul Delevoye, c'est exactement ça.
On peut rajouter à ce que vous disiez, M. Fourquet aussi, un sentiment anti-européen qui est en train d'émerger et qui donne plus de force encore à la sortie de l'euro, etc., etc. On voit bien que ce qui a profondément changé, c'est en réalité l'échec d'un certain nombre de... une réalité qui met en échec un certain nombre d'idéaux derrière lesquels on a défilé. Qui croit aujourd'hui encore à l'égalité des chances? Qui croit encore aujourd'hui à la mixité sociale? Qui croit aujourd'hui encore à ce que chacun puisse avoir un travail alors qu'on est passé à plusieurs millions de chômeurs et que ce que l'on offre, c'est quelquefois des stages pour occuper le temps et pour faire baisser les statistiques. Donc on a un vrai besoin aujourd'hui de retrouver un souffle nouveau sur un projet politique de dimension européenne. Quand on voit que l'Europe, c'est le conflit d'intérêts des États, au sein des nations, c'est les conflits d'intérêts citoyens. Et donc je crois qu'aujourd'hui, cette crise que nous sommes en train de vivre, cette interpellation forte que nous avons que nous devons regarder, c'est-à-dire que aujourd'hui l'expression c'est on veut changer le système. Si le système ne se remet pas en cause et ne redonne pas des espérances nouvelles, eh bien évidemment il va être fortement déstabilisé.
C'est quelque chose qu'on entend tout le temps auprès des sympathisants, des militants ou des électeurs du Front National. Il y a toujours cette idée d'abord de changer le système, de changer les choses, et puis d'essayer quelque chose de nouveau. Marine Le Pen, on ne l'a pas eu. Et puis il y a aussi un autre chose que vous disiez, c'est les transfuges. Vous avez énormément de gens aujourd'hui qui ont rejoint le Front National, qui sont des transfuges, bon, de la droite classique, mais aussi de la gauche et quelquefois même de l'extrême gauche. Donc ça veut dire que ça ne fonctionne plus, ça ne fait plus rêver, il n'y a plus d'espoir de ce côté-là.
Et bien j'ajoute ce que nous dit Michel par mail avant le vote sur le traité européen. J'ai envoyé un courriel à tous les partis politiques français pour savoir s'ils étaient pour ou contre une Europe fédérale. Le seul parti ayant daigné me répondre a été le Front National pour me dire qu'il était contre. Voilà, nous repartons au standard et cette fois c'est Marc qui nous appelle de Paris, je crois. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir.
Posez-nous votre question, vous êtes sur l'antenne de France Inter.
Oui, je vous appelle pour une question sur le lien entre le Front National et les médias.
Vaste question.
Parce que ce parti, il hystérise un petit peu les médias, qu'il s'agisse donc des partis qui reprennent les thématiques du Front National. Je pense par exemple à une revue comme Valeurs Actuelles, qui n'hésite pas à reprendre donc des thèmes identitaires. Et puis de l'autre extrémité, on a des médias qui sont vraiment encore un petit peu partisans de lutter contre la diffusion de ces idées. Et finalement, il n'y a pas d'entre-deux. Je trouve que c'est l'un des seuls partis qui n'est pas traité un petit peu comme les autres, en fait.
Jérôme Fourquet.
Oui, alors c'est un sentiment qui est assez objectif, je pense, mais qui renvoie à une réalité. Une réalité, c'est que, apparemment pour les médias, mais aussi pour beaucoup de Français encore, en bien ou en mal, chacun choisit son camp, mais le Front National n'est pas un parti tout à fait comme les autres. Et donc il n'est pas traité médiatiquement comme les autres. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que vous avez encore aujourd'hui une majorité absolue de Français qui sont prêts à voter pour un camp opposé au leur pour faire barrage au Front National. C'est tout à fait le cas à gauche, c'est un peu moins vrai, mais ça le demeure à droite. Et donc c'est le seul parti qui arrive à polariser une majorité absolue, peut-être même plus de 60% contre lui. Et on le retrouve aussi dans les médias, c'est-à-dire que ce parti ne laisse pas indifférent, ne laisse pas neutre. C'est aussi sa force, c'est-à-dire qu'il dit, voyez bien, il y a nous et eux les autres, système...
Nous, le parti du peuple.
Nous, le parti du peuple.
Contre
l'élite. Le slogan au nom du peuple. Au nom du peuple, le slogan qui a été lancé le week-end dernier à Fréjus, au nom du peuple. Donc, on voit base contre sommet, France d'en haut, France d'en bas, pour reprendre la formule de Raffarin, peuple-élite. Ça fonctionne toujours. C'est le premier clivage. Et puis le deuxième, c'est au sein même de la sphère politique, il y a un parti qui est traité différemment des nôtres, qui suscite des réactions des journalistes, mais aussi des autres responsables politiques différents que si on abordait ou on traitait un autre sujet.
Aurélien Colli, vous qui suivez le Front National pour France Inter, c'est vrai que c'est pas un parti comme les autres,
c'est
même
pas un
à
parti
suivre.
C'est pas un parti comme les autres, donc il n'a pas le traitement médiatique des autres, mais c'est d'ailleurs exactement ce qu'essaye de changer Marine Le Pen, qui depuis les régionales a disparu du champ médiatique. C'est-à-dire qu'elle l'explique, elle dit « moi j'alimente le buzz, je ne veux plus être dans le buzz, donc je prends du recul, je m'extrais du champ médiatique pour finalement me normaliser pour ne plus être ce parti différent qui a donc un traitement différent. »
Nous partons au standard. Félix nous appelle du Loir-et-Cher. Félix, bonsoir, c'est à vous. Bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Je vous en remercie. Bonjour. Je vais essayer de faire court. La question est de savoir si le FN a changé. Non, il n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est Madame Le Pen, et sa stratégie qui veut rassurer tout en ratissant encore plus large. Je sais que mes comparaisons ont leurs limites, mais je ne peux pas m'empêcher de songer à ce qu'un député allemand, en février 32, avait répliqué à son collègue Goebbels « Toutes vos gesticulations sont un appel permanent au salaud qui dort en chacun de nous. » Je sais que les Le Pen, père et fille, font souvent ami-ami avec les partis néo-nazis d'Autriche, d'Allemagne, de Belgique. Non, le FN n'a pas changé, il a toujours sa même nocivité. Merci.
Voilà, c'était Félix. Nicolas Lebourg, en direct de Perpignan, vous pouvez répondre à Félix ?
Oui, très simplement, je vais me permettre de vous donner mon avis, monsieur, au niveau historique. Le Front National est un parti d'extrême droite, mais qui ne correspond pas au fascisme. Le Front National s'inscrit dans la lignée de ce qu'on appelle le national-populisme, qui naît dans la France de la fin du 19e siècle, dans les années 1880. Les fascismes, eux, vont naître après la Première Guerre mondiale, bien sûr, et ils veulent créer un homme nouveau par une guerre impérialiste à l'extérieur et un État totalitaire à l'intérieur. Marine Le Pen, je crois, ne veut pas de guerre impérialiste, pas d'État totalitaire, pas d'homme nouveau. Elle n'est pas de cette catégorie. Et c'est le problème, ça rejoint votre question, ce que disait monsieur tout à l'heure. Avec le Front National, on a toujours du mal à le cerner tranquillement dans le débat public. C'est-à-dire, on va dire le Front National n'est pas de l'extrême droite. C'est faux, il correspond à cette longue tradition de l'extrême droite qui existe en France. Une des premières apparitions dans le débat, c'est dans les années 1820, hein, de ce terme. Mais il ne correspond pas au fascisme. Or, on va confondre, on va dire soit il est fasciste, soit il n'est pas d'extrême droite. Alors, je crois que c'est un des gros problèmes qu'on va avoir pour cette campagne présidentielle, c'est arriver à cibler tranquillement, rationnellement, la place du Front National comme parti d'extrême droite ayant des scores inconnus dans l'histoire de notre vie politique.
Merci beaucoup, Nicolas Le Bourg. J'ajoute, Jérôme Fourquet, ce message qui nous vient de Twitter, de Benoît, qui lui s'intéresse au directeur de campagne de Marine Le Pen, David Racheline. Patrimoine fasciste, dit-il, il vient de la mouvance Soral, c'est ça, le directeur de campagne de Marine Le Pen?
Alors Nicolas Le Bourg connaît ça mieux que moi, oui, il est passé par Égalité et Réconciliation, le groupuscule qu'anime Soral, mais le profil de ce jeune homme est intéressant. Il est sénateur-maire à moins de 30 ans.
De Fréjus.
Et s'il est choisi comme directeur de campagne, c'est à la fois pour des raisons idéologiques et des raisons sans doute humaines. Marine Le Pen a besoin de quelqu'un de confiance sur qui s'appuyer. Mais c'est aussi une formidable vitrine sur la respectabilité et sur la professionnalisation de ce mouvement. Ça veut dire quoi? Vous avez parlé de savonnette tout à l'heure, on pourrait parler de lessive, vous avez le deux en un. C'est à la fois, on fait la place et on fait confiance aux jeunes. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez positif. Et en même temps, à tous ceux qui nous disent que le Front National n'est pas capable de gérer un exécutif, Fréjus, c'est pas un village, il est sénateur-maire, et donc il a, sur des antennes de vos confrères et concurrents, vanté son bilan à la mairie de Fréjus en disant « Nous aussi, au Front National, nous savons faire ».
Voilà, David Racheline qui a dit ce matin, on est un petit peu de droite et un petit peu de gauche. Oui, Aurélien Colli, pardon.
Non, c'est aussi quelqu'un, Marine Le Pen, quand elle l'a nommé, avait résumé David Racheline en trois mots. Jeunesse, méritocratie, succès. C'est ce que le Front National tente d'incarner. Et puis David Racheline, il y a aussi une dimension, c'est que c'est quelqu'un qui est capable aussi de faire un peu la synthèse entre finalement les deux lignes qui traversent aujourd'hui le Front National. Le canal historique, hein, le FN traditionnel qui est incarné par Marion Maréchal Le Pen, par exemple assez à droite finalement sur les valeurs. Et puis le Front National un peu plus Florent Philippot, qui lui est plutôt à gauche sur les valeurs.
Alors, deux messages qui nous arrivent sur franceinter.fr. Christophe qui nous dit « Peu importe si le FN a changé ou pas, l'important est qu'il y a toujours un potentiel latent pour un tel parti et qu'il se révèle lorsque les gouvernants manifestent leur médiocrité, leur nullité, leur incompétence, ce qui est le cas de la classe politique actuelle. » Jean-Paul Delevoye, je crois que vous ne rajouteriez pas un mot à ça.
Moi, j'avais été très frappé par le fait que c'est un journaliste qui m'avait attiré mon attention là-dessus. Quand vous questionnez un responsable de droite ou un responsable de gauche en disant « Vous sentez-vous responsable de la montée du Front National ? » Ils ne répondent jamais oui. Ils disent toujours, quand on est de droite, « Ah ben c'est Mitterrand et la gauche dira « Ah ben c'est Sarkozy », etc. etc. » Si les responsables politiques ne mesurent pas que le Front National, un des niveaux du vote du Front National, c'est le niveau de leur échec et voire de leur médiocrité par soit défaut d'exemplarité, soit défaut de crédibilité. Il y a un déficit de légitimité, il y a un déficit de crédibilité, un déficit d'exemplarité. Les gens ont soif de ça. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est que quand on voit aujourd'hui l'intérêt que représente un Alain Juppé, c'est pas tellement sur son programme, c'est sur la notion de grandeur qu'il porte et la notion de rassemblement. Un intérêt que porte Macron, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est paradoxalement une nouveauté, même si derrière il y a toute une série de. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui les gens aspirent à quelque chose qui soit plus noble. Les gens adorent la politique. Les Français sont très politiques, mais ne refusent ce comportement politicien de calcul, de manipulation et de position. Et moi je crois, pour la question média Front National, c'est est-ce que quelquefois on n'en fait pas trop? Parce que tout le monde remet le Front National au cœur du jeu. Et on voit
aujourd'hui... Vous savez,
monsieur Delevoye,
que sur le service public, on est tenu à des temps de parole, en période électorale,
mais c'est
et
pas,
même
c'est
hors.
Pas du tout un reproche, mais je veux dire que, par exemple, on voit bien que le comportement d'un certain nombre d'hommes de droite serait-il le même s'il n'y avait pas le Front National? Je pense que c'est des gens qui n'ont pas au fond de même ces convictions, mais qui ont des convictions tactiques. Et l'on voit bien qu'à gauche, c'est pareil. Quand vous avez vu un parti socialiste capable de porter la déchéance de nationalité ce qui est quand même invraisemblable par rapport à une philosophie de gauche. Et quand vous voyez aujourd'hui l'hystérisation sur la question d'identité avec ces réductions gaulois alors qu'on est en train d'avoir des identités multiples, ça veut dire qu'aujourd'hui on est prêt à vendre son âme pour un calcul politique, pour un chemin de la victoire électorale. Et on ne se rend pas compte que l'élection présidentielle est certes importante, mais la vraie étape c'est de quelle majorité législative on va avoir. Et si le candidat est élu sur une minorité, 25%, sur une tension et une violence radicale de ses propos, comment va-t-il engager ensuite un changement qui va créer une formidable colère dans le pays?
Alors ça, c'est une question pour Jérôme Fourquet, parce qu'effectivement, la grande question du Front National, c'est d'abord le deuxième tour de la présidentielle, et puis ce sont les législatives. Jusqu'à présent, le FN, dernières élections, premier parti au premier tour, mais incapable de rassembler au deuxième tour, c'est ça le problème?
Alors oui, alors faut toujours être prudent, il peut se passer encore beaucoup de choses, mais là il y a toute une série d'enquêtes d'intention de vote qui paraissent maintenant depuis plusieurs mois, qui donnent systématiquement Marine Le Pen à des niveaux entre 25 et 30%, ce qui, compte tenu du paysage électoral et politique aujourd'hui, lui offre une qualification pour le deuxième tour. Il y a les sondages, et puis il y a aussi les élections antérieures. Vous avez rappelé les élections régionales, 28% au premier tour, les départementales, oui. Il y a une prime très forte à l'enracinement local que le Front National n'avait pas. Il fait néanmoins 25%, les européennes 25%. Donc, il est à son étiage au moins 25%. Donc, on peut prendre comme assez plausible, voire très plausible, la qualification de Marine Le Pen au deuxième tour. Après, là où ça se complique pour eux, c'est comment on passe, admettons, de 28%.
Comment on rassemble? Parce qu'un deuxième tour, c'est rassembler.
Alors voilà. Alors, on rassemble toujours aussi en contre. Hein, mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le mécanisme du contre, il est plus puissant dans le camp adverse au Front National, hein, le fameux Front Républicain. Et donc, de mon point de vue, la situation sociale et politique de notre pays n'est pas mûre pour que le Front National accède à 50%. Si on fait juste un pas de côté, 2012, c'était il y a 5 ans, Marine Le Pen fait 18%. Si dans 6 mois, elle fait 28%, c'est un gain de 10 points en 5 ans. C'est énorme. Et sans doute quelques points supplémentaires dans un entre-deux-tours avec des abstentionnistes. Mais le scénario qui se vérifiera, ce sera celui des régionales, un très bon premier tour, mais une majorité absolue qui se refuse encore. Alors après, certains qui sont adversaires du Front National se rassureront à bon compte, mais les projections dont on dispose sur un second tour, un duel d'un candidat de droite au hasard, Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy, contre Marine Le Pen, on est dans des étiages de 60 pour la droite à 65 pour la droite et donc 35 à 40 pour le Front National. Là, on remonte un peu plus loin dans l'histoire. 2002, Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, 82-18. Donc en 15 ans, on serait passé, si tout ça se vérifie bien ou se traduit bien dans la réalité, d'un niveau de vote du FN de 18 à 35%. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait des années qu'on a à peu près un tiers des Français qui se disent en partie d'accord avec certaines idées du Front National. Mais le FN n'était jamais parvenu à exprimer électoralement la plénitude ou la totalité de ce potentiel. Aujourd'hui, on commence à s'en approcher.
Voilà, donc le deuxième tour très ouvert, si c'est le cas. Nous repartons au standard de France Inter, nous partons dans les Pyrénées-Orientales, mais pour retrouver François cette fois-ci. Bonsoir François.
Bonsoir, merci de prendre ma question.
Je vous en prie.
Oui, je voudrais demander à vos intervenants leur avis sur le fait suivant. Je suis moi-même incapable de répondre à la question, bien sûr, c'est pourquoi je la pose. Pourquoi, diable, est-ce que les électeurs français reportent leur vote sur le Front National, soi-disant pour faire échec à toute une caste politique qui se perpétue dans l'espace politique français, sans renouvellement, avec toujours les mêmes idées, le même manque de, comment dire, l'absence de paroles tenues par rapport aux promesses, alors que de l'autre côté, à l'autre bout de l'échiquier politique, il y a M. Mélenchon, qui propose également des solutions de rupture, avec, me semble-t-il, des garanties démocratiques et républicaines plus affirmées que le Front National.
Question pour vous, Jérôme Fourquet. Alors, la question identitaire est essentielle, en plus de la question sociale?
Alors, la question identitaire, elle est essentielle. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon, à la précédente élection présidentielle, en 2012, voit son score un petit peu décroché de quelques points, pas énorme, à la fin de la campagne, où il a un discours très pro-immigration. Et puis ça se confirme quelques semaines après quand il va défier Marine Le Pen dans son fief du bassin minier du Pas-de-Calais en terre ouvrière. Donc là, il y a un combat symbolique. On rejoue Monsieur vient des Pyrénées-Orientales. On rejoue la guerre d'Espagne dans le camp de Mélenchon, hein, né la lutte contre le fascisme. Et Jean-Luc Mélenchon prend une très sévère déconvenue, enregistre une très sévère déconvenue électorale. Donc il y a cette question de l'immigration, mais plus globalement, ce qui apporte de l'eau au moulin au Front National, on l'a dit tout à l'heure, c'est à la fois la dimension anti-système. On peut se dire que le Front de Gauche est aussi un parti anti-système, mais comme le rappelait Nicolas Lebourg tout à l'heure, il y a tout un discours qui va avec, il y a toute une vision du monde. Et cette vision du monde, on a pas mal travaillé là-dessus, notamment au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, où beaucoup de Français n'ont pas défilé, contrairement à ce qu'on a raconté, toute la France n'était pas Charlie. Et pourquoi ? Parce que beaucoup d'électeurs proches du Front National se disaient « mais tout ce qui est en train de se passer, ça faisait longtemps qu'on le voyait venir, ça fait longtemps qu'on l'avait anticipé, et la marche du monde ». Le sens de l'histoire, hein, pour reprendre un terme marxiste, le sens de l'histoire aujourd'hui, eh bien, entre d'une certaine manière en résonance avec un certain nombre de diagnostics que le Front National a pesé. Et donc, le Front National se crédibilise aux yeux d'une partie de l'électorat. C'est à la fois l'offre politique, mais aussi la vision du monde. Je vous donne juste un exemple. Au moment du printemps arabe, toute la classe politique, Jean-Luc Mélenchon compris, applaudit des deux mains. Et Marine Le Pen dit, en tant qu'être humain, je suis très content pour eux, mais moi, en tant que responsable politique française, je crains qu'après le printemps arabe, on ait l'automne islamiste et qu'on ait les migrants. Et donc, vous avez aujourd'hui beaucoup d'électeurs qui disent, mais elle avait et son père avait eu raison. Donc, il y a cette marche de l'histoire et de l'actualité qui viennent apporter aux yeux d'un certain nombre d'électeurs qui votent pour le Front National le sceau de la crédibilité et de la rationalité.
Alors, on va partir à Perpignan retrouver Nicolas Lebourg, parce que ce que nous disait cet auditeur il y a quelques instants, Nicolas Lebourg, c'est que pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon ? Et effectivement, vous le soulignez, le Front National a gagné pour l'instant le vote des classes populaires.
Tout à fait, c'est une question essentielle. Il faut bien voir que toutes les enquêtes démontrent que la première raison de voter Front National, c'est l'immigration. Mais quand on dit l'immigration, ça veut dire beaucoup de choses dedans. On met beaucoup de réalité là-dedans. Ça va être l'endroit où vous vivez, votre quartier, ça va être les questions de sécurité, ça va être les questions identitaires qu'on a évoquées tout à l'heure, etc. Il y a un discours très important pour les gens, justement les gens des classes populaires, qui est, en gros, le système, le gouvernement a des politiques d'intégration pour les immigrés, pour les gens issus de l'immigration, et pas pour le travailleur. Le travailleur, il est prié de se taire, il bosse, et il n'y a rien pour lui. C'est ce discours-là, cette catégorie-là qu'avait su toucher Nicolas Sarkozy en 2007, et que c'est touché aujourd'hui à Marine Le Pen. Et il y a quelque chose, ça dit beaucoup de choses sur nous, en tant que société, parce que rappelez-vous, Marine Le Pen a un espèce de trou d'air en 2012 à un moment. Elle parle beaucoup de la Banque Centrale Européenne, elle a un trou d'air dans l'opinion. Et ce qui l'a fait remonter, ça va être, pardonnez-moi de le dire, mais les attentats faits par Mohamed Merah, où elle tient un discours extrêmement violent à ce moment-là sur la question du terrorisme, sur la question de l'immigration, ce qui lui permet de finir avec un score historique au premier tour. Donc l'extrême droite, elle est forte quand elle a un message extrêmement ferme, extrêmement dur sur la question migratoire. Marine Le Pen, le Front National en général, s'il parle d'autre chose, il recule. La société française n'écoute l'extrême droite que quand elle parle de ce type de questions, pas si l'extrême droite parle d'autres sujets, de géopolitique, d'économie, etc. Il y a beaucoup moins de réception.
Voilà, le FN reste sur ses fondamentaux. Il a intérêt à le faire, en tout cas. On repart au Standard de France Inter. C'est Emmanuelle qui est en ligne et elle nous appelle de la Loire. Bonsoir, Emmanuelle.
Oui, bonsoir. Moi, je voudrais savoir qui serait le plus pénalisé dans le cas d'une élection du Front National.
C'est-à-dire,
est-ce que ce serait les classes populaires qui sont déjà dans la difficulté, puis en toute franchise, qui ont bien peu de chances de s'en sortir, ou nos classes dirigeantes qui sont bien installées et qui nous disent que ce qui est bien de voter ou pas bien de voter, mais qui règle aucun problème.
Vous-même, Emmanuel, vous seriez tenté par le vote Front National ?
Du tout. Moi, il y a longtemps que je vote plus. Hein. J'ai bien compris. Il y a longtemps que j'ai compris que ça sert à rien.
Voilà, mais vous voudriez savoir ce qui se passerait
Je me dis, finalement, quelqu'un qui est dans la difficulté, comme j'en vois beaucoup, je vois pas ce que ça lui changerait, franchement. Hein.
Voilà. Alors, question Jérôme Fourquet. Si le Front National appliquait vraiment son programme, qui serait gagnant, qui serait perdant?
Alors, je vais répondre un peu à côté, excusez-moi, mais pour éclairer quand même les choses. Aujourd'hui, le Front National, c'est à peu près 40% d'intention de vote chez les ouvriers, les chômeurs, les employés, les commerçants, les artisans, et 15 à 20% sur les cadres, profession libérale, profession intellectuelle. Pourquoi cet écart ? Parce que, un peu comme ce qui était dit à l'instant, beaucoup de gens n'ont plus grand-chose à perdre quand on est avec des salaires très, très modestes. Et donc, le discours de rupture, pour parler clair, on va renverser la table. Ceux qui n'ont pas plus rien à perdre, ceux qui n'ont pas d'économie, ceux qui ont une situation déjà très précaire, se disent, après tout, pourquoi pas tenter ?
Voilà, c'est ça. On a des messages qui vont dans ce sens-là. Pourquoi ne pas mettre un coup de pied dans la fourmilière et voir ce qui va se passer ?
Et donc, typiquement, tout le débat sur l'euro, on sort de l'euro, etc. Ça fait peur à qui ? Ça fait peur à ceux qui ont une épargne, un petit patrimoine, et qui ils se disent, eh bien nous, on est encore à peu près à flot dans le système, et donc tout chambouler, ça ne va pas. La grande difficulté stratégique, de mon point de vue, pour le Front National, c'est qu'ils sont pas loin d'avoir fait le plein des voix dans cette France populaire. Et donc, les marges de progression, aujourd'hui, elles sont plutôt dans la France qui va bien, d'où le fait d'édulcorer le discours, mais à trop édulcorer le discours, comme le rappelait très justement Nicolas Lebourg, ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez le perdre de l'autre. Donc je pense que dans la période actuelle, compte tenu de la situation, le Front National peut encore gagner des parts de marché, gagner des voix, mais qu'il est pas loin d'être sur un espèce de d'équilibre auto-bloquant. Rien ne n'est bouché pour lui en termes d'avenir si la situation sur un certain nombre de questions que nous avons abordées tout à l'heure, question terroriste, la question migratoire, le rapport à l'islam, viennent à s'enflammer, à se dégrader. Alors là, les perspectives seront radicalement différentes. Mais encore aujourd'hui, et pour répondre un peu de manière détournée à votre auditrice, une majorité de Français qui s'en sortent à peu près bien estiment qu'ils auraient beaucoup à perdre de l'arrivée du Front National au pouvoir, soit économiquement, soit en termes de tension. On parle de guerre civile si jamais le Front National arriverait, qui mettrait le feu aux poudres. Et donc c'est ça aussi qui fait barrage et blocage à la poussée du Front.
Une dernière question, c'est Yves qui nous appelle de Normandie. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de le prendre en ligne. Le FN suit le sens du vent, nous dit-il. Il n'appliquera pas son programme de rupture, car ils seront contraints par les textes de l'Union européenne. Nicolas Lebourg, en quelques secondes, est-ce que effectivement le FN serait coincé par les textes de l'Union européenne ?
Ça permet de lier les deux questions. On regarde les alliés que Marine Le Pen s'est choisi au Parlement européen. À chaque fois qu'ils ont participé au pouvoir, ces partis qu'elle a choisis, ils ont mis de côté leur volet social et en fait, ils ont appliqué les politiques eurolibérales, les politiques d'austérité, en les compensant par une lutte contre l'immigration et des politiques de fierté nationale. Ils n'ont pas renversé la table, ils n'ont pas redistribué aux petites gens, ils ont compensé l'eurolibéralisme avec un ethno-nationalisme.
Merci beaucoup Nicolas Lebourg. Un tout dernier mot, Aurélien
Polis. Très rapidement, pour savoir ce que va appliquer le Front National, il faudrait qu'il résolve un certain nombre de contradictions. Je vous prends un exemple sur la loi El Khomri. Vous avez d'un côté les parlementaires du Front National qui voulaient plus de libéralisme, de l'autre vous avez la ligne Marine Le Pen-Philippot qui était contre la loi El Khomri. Donc il y a des contradictions.
Merci beaucoup Aurélien Polis, merci beaucoup Jérôme Fourquet, merci Nicolas Lebourg. Jean-Paul Delevoye nous a quittés, il avait un train à prendre pour rentrer dans le Pas-de-Calais. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer.